Bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous poursuivons notre Lectio Divina des Actes des Apôtres en nous accrochant simplement, en nous mettant au rythme du déroulement de la lecture de ce livre que nous propose la liturgie tout au long de ce temps pascal. Dans le premier épisode de ce podcast, je vous avais proposé de lire d'une manière et de méditer d'une manière approfondie les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres qui contiennent comme en substance tout le reste du livre au sens théologique et au sens de l'Église. Je vous rappelle qu'au verset 8 du chapitre 1 est résumé d'une certaine manière l'essentiel de ce livre des Actes des Apôtres. En effet, Jésus dit à ses apôtres, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Présentement, nous sommes dans la troisième partie du livre des Actes, des chapitres 13 au verset 20. C'est là que nous sont décrits les trois voyages missionnaires de Paul et le concile de Jérusalem qui, nous l'avons dit, est un peu le cœur de ce livre. Dans la deuxième partie, on va juste revenir rembobiner un petit peu. Rappelez-vous qu'on avait dit que c'est dans ces chapitres 8 à 12, on assiste aux premières persécutions et au début aussi de l'élan missionnaire de l'Église, de son expansion et donc de la conversion des païens. Mais dans cette partie du livre, il y a un récit qui est très important pour nous, c'est celui de la conversion de Saint Paul ou de Saul sur le chemin de Damas. On connaît bien ce récit où Paul est comme renversé. On l'a représenté comme tombant de son cheval, mais l'Écriture, vous allez voir, ne parle pas de cheval. Voici ce que nous lisons au verset 3 du chapitre 9. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ses compagnons de route étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, bien qu'il eût les yeux ouverts. Il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire. Et quelques versets plus loin, Ananie prit sur Paul, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin. » Aussi tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue et fut baptisé. « Ainsi tu vas retrouver la vue, dit Ananie, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Donc cet événement capital, puisque Paul est le premier grand apôtre, enfin le premier nom, c'est plutôt Pierre, mais le premier grand théologien, cette expérience va se traduire dans une théologie que nous retrouvons notamment au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Rappelez-vous, quand Paul, ce chapitre qui est consacré d'abord au baptême, Paul nous dit que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec le Christ dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions une vie nouvelle. C'est exactement ce qu'il a vécu d'une manière mystique et sacramentelle sur le chemin de Damas. Il a été enseveli avec le Christ, c'est-à-dire que Saul est mort et Paul est né. Plus loin dans ce beau récit, Paul dit que la mort du Christ fut une mort au péché une fois pour toutes. Et il ajoute, pensez que vous aussi, vous êtes mort et péché, au péché et vivant pour Dieu. Et il ajoute cette phrase étonnante, il dit, vivez comme des vivants revenus de la mort. Mais qu'est-ce que signifie cette mort? Évidemment, c'est la fin de l'être ancien qui est enseveli ou cloué avec le Christ sur la croix. Et Paul le décrit dans d'autres termes, dans un passage que j'aime beaucoup de la première lettre à Timothée. Voici ce qu'il dit au chapitre 1, verset 12. « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. » Donc ce Saul qui était rempli de zèle pour la loi de Moïse et qui donc se précipitait pour enchaîner les chrétiens et les ramener avec des chaînes à Jérusalem, lui qui assiste aussi au martyr d'Étienne, eh bien, il est bouleversé et il se rend compte que ce n'est pas par la loi de Moïse qu'on devient juste, mais par la foi en Jésus le Christ. Alors, Paul à Damas, immédiatement après cette expérience de conversion, après son baptême, il se met à prêcher que Jésus est le Seigneur en s'appuyant sur les Écritures et il est objet immédiatement d'une persécution. Et Paul va commencer une vie d'aventure, une vie à haut risque, on dirait un sport extrême aujourd'hui, la vie d'apôtre. Il le décrit d'une manière stupéfiante, frappante, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir des versets 24. Voici ce qu'il dit. « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. » Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci des églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? » Alors, ça va être le style de vie que Paul a décidé d'accepter pour le Seigneur. Alors, il quitte Damas dans un panier qui est descendu le long des murs de Damas parce qu'il était objet de surveillance, on voulait le mettre à mort. Et il va se réfugier à Antioche, qui est une Antioche dans l'actuelle Syrie, qui est tout au nord du Liban et au nord de Damas. Et dans cette ville, il y a une communauté chrétienne qui apparemment est florissante. Et l'Écriture nous dit au chapitre 13, verset 1, qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Et au verset 2, l'Esprit Saint leur dit, donc à la communauté chrétienne, « Mettez-moi à part, Paul et Barnabé, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors la formule est assez étonnante. L'Esprit Saint leur dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabé. » Alors, c'est peut-être justement par ce verset 1 que nous avons la clé ou l'explication. Quand ils nous ont dit qu'il y avait dans cette église des prophètes et des docteurs. Les prophètes dans l'église primitive étaient des ministres. La prophétie était un ministère, c'est-à-dire qui était organisé, qui était discerné. Paul dit en première aux Corinthiens que les prophètes étaient soumis aux prophètes et qu'il ne faut pas étouffer les prophéties, mais discerner tout ce qui est bon. Paul nous dit aussi dans l'Épître aux Éphésiens que notre Église est fondée sur les apôtres et les prophètes, et pas les prophètes de l'Ancien Testament, mais les prophètes du Nouveau Testament. Il dit un peu plus loin au chapitre 3 des Éphésiens que c'est grâce aux prophètes que le mystère jadis caché a été dévoilé, c'est-à-dire que les païens sont associés au même héritage, membres du même corps, et héritier de la même promesse. Donc, sur cette certitude que c'est l'Esprit qui parle par les prophètes, Paul et Barnabé quittent Antioche, qui est une ville dans les terres, pour aller au port de Séleucie, port sur la Méditerranée évidemment, et ils traversent jusqu'à Chypre. Pourquoi sont-ils allés à Chypre? Bien, j'ai vu dans une note, un commentaire, que c'était le pays d'origine de Barnabé, cette plus grande, la plus grande des îles du bassin méditerranéen. Et ils accostent dans le port qui est à l'est, Salamine, et ils vont progresser au fil des prédications dans les synagogues juives tout le long de cette île de Chypre jusqu'à Paphos. Après ce ministère fécond, ils reprennent le bateau pour aller à Pergé, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver le continent, ils vont arriver dans la Turquie actuelle, à peu près au centre, au sud évidemment, dans cette région qu'on appelait la Pamphylie, qui était la région côtière, et ils vont monter jusqu'à Antioche, qui est donc pas l'Antioche de Syrie, mais l'Antioche de Pisidie, une autre région à l'intérieur des terres, qui était difficile d'accès, assez inhospitalière, mais où il y avait une communauté juive importante à cause notamment du commerce des fourrures. Et à leur habitude, ils entrent dans la synagogue d'Antioche, où Paul va faire un discours assez long que Luc nous relate, et où il va reprendre un peu les grandes étapes de l'histoire du salut. Alors, on peut s'étonner de ce qu'il commence son texte en disant « Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte à bras étendus ». Il ne parle pas du récit de la création, mais il part immédiatement de l'événement de l'Exode. Il parlera de la création à un autre moment, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, il relate l'épisode du désert, l'entrée en terre promise, les rois Saul et David, et finalement on arrive à Jean-Baptiste, le précurseur, qui annonce Jésus, qui est lui-même de la race de David. Et Paul dit cette chose étonnante, que les Juifs ont accompli les Écritures sans le savoir, à savoir que le Messie devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Paul va s'appuyer sur deux psaumes et deux citations, une du prophète Isaïe et l'une du prophète Habacuc. Le premier psaume qu'il cite, c'est le psaume numéro 2, où il dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ce psaume est un psaume messianique, il commence par ces paroles. « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples, les rois de la terre, s'insurgent contre le Seigneur et son Messie ?» Et un peu plus loin, Dieu s'adresse au Messie en disant « Demande et je te donne les nations en héritage ». Donc ce psaume qui va revenir, qui est récurrent dans la prédication des apôtres, eh bien nous montre le Messie, mais aussi est un psaume qui a une portée universaliste, c'est-à-dire que toutes les nations sont concernées par l'avènement de ce Messie, et c'est pourquoi le Saint-Esprit a fait relire ce psaume et l'a traduit, l'a compris comme étant un psaume qui annonçait le Christ mort et ressuscité. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Paul nous dit qu'il s'agit de la résurrection. On pourrait dire aussi de l'ascension du Christ qui monte à la droite du Père, qui est couronné roi des nations. Et c'est pour nous important parce que, au niveau méthodologique, nous qui faisons la Lectio Divina, eh bien, on comprend que c'est par l'Écriture que l'on lit l'Écriture, c'est par l'Écriture que s'éclaire l'Écriture. L'Écriture est un grand tissu, on peut pas toujours le découper en petits morceaux, c'est pour ça que c'est important de le lire le plus possible dans son étendue pour entrer dans sa poésie, dans sa cohérence, dans son histoire, pour petit à petit habiter la planète Bible. Jésus, aux disciples d'Emmaüs, qui cherchent un espoir après la mort du Christ, leur ouvre l'intelligence, ou plutôt l'esprit à l'intelligence des Écritures, et nous dit le chapitre 24 de Saint-Luc, « Jésus leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Donc, toute l'Écriture nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, quand nous la lisons dans l'Esprit Saint, comme Paul l'a fait, et les premiers chrétiens. Ce discours se termine avec une péroraison, une conclusion, qui est évidemment la résurrection. C'est comme si la résurrection était le dernier mot de la révélation. Et Paul dit que le Christ s'est montré à ses disciples, comme il le dit aussi dans la première aux Corinthiens, il s'est montré à plus d'une centaine de frères à la fois. Il est même apparu à moi, l'avorton. Donc la résurrection, d'une certaine manière, voilà le message chrétien. Voilà la nouveauté absolue. Voilà l'accomplissement des Écritures. Et Paul dira également dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et vide notre prédication. Mais non, le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Et Jésus lui-même l'avait dit au chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Le chapitre 13 au verset 44 nous dit que la ville presque tout entière venait écouter la prédication de Jésus et que la parole se répandait dans tout le pays. Mais la jalousie des Juifs incrédules, parce que c'est pas tous les Juifs qui ont persécuté Paul, beaucoup se sont convertis, ont accepté Jésus, eh bien, vont fomenter une persécution qui va forcer le départ de Paul et Barnabé, mais ils vont se tourner vers les païens pour accomplir ce que disait le prophète Isaïe au chapitre 49, verset 6. « Je t'ai établi lumière des nations. » Donc le peuple d'Israël préfigurait le peuple de l'Église qui rassemble des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Et le texte conclut cette mission en disant que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv lucanien, une note qui revient chez Saint Luc dans son évangile et dans les Actes des Apôtres. On l'a entendu, par exemple, à la Visitation, quand Marie salue Élisabeth, elle fut remplie de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, les disciples furent remplis de l'Esprit Saint. Au baptême de Paul, Ananie lui dit « Sois rempli de l'Esprit Saint ». Paul dit aussi dans Éphésiens 4, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Donc, Luc, au fond, nous indique que le mode de vie, le régime habituel de la vie chrétienne, c'est la plénitude de l'Esprit Saint. Nous devons régulièrement retourner à la station d'essence, c'est-à-dire à l'Église, à l'Écriture, à la grâce, à la prière, pour être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Paul et Barnabé vont donc ensuite fuir vers Lystre où ils vont guérir un boiteux. Ils font un long séjour, nous dit l'Écriture. C'était une colonie romaine d'où était originaire Timothée, le grand collaborateur de Paul. Et ce miracle leur vaut d'être adorés comme Zeus et Hermès. Et c'est là où Paul va faire un discours qui invoque plutôt le dieu de la création. Il sait s'adresser aux païens qui ne sont pas des gens irreligieux, au contraire, mais simplement des idolâtres et des polythéistes. Et Paul les ressente vers ce dieu créateur, ce dieu qui apporte ses bienfaits à tous les hommes et qui ne sont pas des dieux, mais ils sont de simples serviteurs. À Lystre, Paul va être lapidé et fuir à Derbé, c'est-à-dire qu'il pénètre plus profondément dans l'arrière-pays. Mais étonnamment, il va revenir plus tard à Lystre. Apparemment, il n'a pas eu de problème à ce moment-là. Et il revient pour boucler le voyage à Antioche de Syrie, où les frères vont les retrouver, vont pouvoir faire le récit de toutes les merveilles que le Seigneur a accompli, comme dit Paul aussi en citant Isaïe, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, bien, je vous invite à entrer dans cette Lectio Divina de ces chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres. La Lectio, c'est lire de longs passages, de les relire plusieurs fois, de les laisser pénétrer en nous, de les méditer, de peut-être apprendre par cœur certains passages qui nous touchent personnellement, et nous pouvons aussi terminer en faisant une prière d'action de grâce comme nous allons la faire. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, nous dit Luc au moment de la Pentecôte, et ils annoncèrent les louanges du Seigneur dans de nombreuses langues. Alors Seigneur, fais de nous des êtres de plénitude, que nous soyons nous aussi comblés de ta grâce et que nous puissions annoncer dans un langage nouveau la bonne nouvelle de ta résurrection.